La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. La lecture de l'œuvre d'Elfriede Jelinek n'est pas toujours de tout repos, car elle vise à détruire les belles façades derrière lesquelles nous nous cachons pour nous protéger de ce que la vie a de monstrueux. C'est surtout à son pays, l'Autriche, qu'elle n'a cessé de s'attaquer, dénonçant notamment les images d'Épinal, d'un pays qui aime se voir comme la patrie de la grande musique, le berceau de la psychanalyse, et ce bel endroit d'Europe où l'air serait spécialement pur. Tout cela, non, Elfriede Jelinek ne nous laissera pas y croire. Nous consacrons donc trois émissions à celle qui a obtenu en 2004 le prix Nobel de littérature. Lundi, Yasmine Hoffman nous a raconté sa vie et sa relation avec ses parents, sa mère en particulier, une femme si forte qu'elle en était tyrannique et avec laquelle l'écrivaine vivra jusqu'à sa mort. Et puis hier, Florence Banco nous a parlé plus largement des grandes thématiques à l'œuvre chez Jelinek, en particulier dans des livres comme Loust ou dans Les Amantes. Et aujourd'hui ? Et bien aujourd'hui, en seconde partie de cette émission, après la chronique de Mayalen Berasategui, nous nous demanderons avec Béatrice González-Vanguel en quoi Jelinek peut être considérée comme subversive ou dangereuse. Et dans une première partie, nous allons explorer le rapport de l'écrivaine autrichienne avec la pop culture grâce à Vanessa Besan, maîtresse de conférences en littérature comparée à l'université de Bourgogne-Franche-Comté à Dijon et autrice d'un texte sur ce thème dans la revue en ligne Trans. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
Also es ist ja die Montagen, die ich verwende, sind ja zum Teil auch aus der äußersten Trivialität.
Ma façon de procéder est un montage. C'est d'une part une combinaison de la réalité la plus triviale que j'associe, comme je l'ai fait dans mes premiers romans, avec de la littérature de gare. Quand on se risque à cette trivialité extrême, on peut se permettre également le pathos. Il faut seulement veiller à maintenir un certain équilibre pour que le texte ne bascule pas. C'est quelque chose que j'ai appris en musique. On peut risquer le pathos, mais il faut toujours le contrebalancer par une extrême trivialité. Mais ce pathos ne doit jamais être quelque chose de froidement calculé. Ça doit être au contraire l'expression de la passion.
Elfriede Jelinek, interrogée en 2005 par Christine Le Cerf. Bonjour Vanessa Besan.
Bonjour.
On vient de l'entendre, il y a chez Jelinek des références multiples et constantes à une culture qui serait non élitiste, qui serait une culture populaire. Est-ce qu'on peut même dire que c'est une de ses marques de fabrique ?
Oui, je pense, en tout cas dans l'œuvre romanesque, même si je connais moins bien l'œuvre théâtrale, mais il me semble que c'est aussi le cas. Dans les romans de Jelinek, effectivement, il y a toute une utilisation, une réutilisation par la romancière de la culture populaire, voire de la culture de masse, dont elle dit elle-même qu'elle s'est beaucoup nourrie depuis son enfance, puisque je crois que c'est Yasmine Hoffman qui rappelait ça dans l'émission de lundi. Jelinek a effectivement énormément lu, de manière très boulimique, et elle s'est nourrie à la fois de la plus grande littérature, notamment poétique, et en même temps d'énormément de culture de masse, de magazines, par exemple, mais également au niveau télévisuel, de séries. Elle a regardé beaucoup les séries, et elle mentionne par exemple Flipper le Dauphin, Lassie, Chien fidèle, donc des séries aussi familiales qui sont vraiment de l'ordre du divertissement.
Il faut dire qu'elle est restée chez elle pendant voilà. une année au cours d'une crise nerveuse et que c'est là où elle a voilà. passé sa vie quasiment à regarder la télévision.
C'est ça, donc bon, quand on est aussi enfermé chez soi, effectivement on trouve des moyens aussi de s'occuper, en sachant que voilà, elle aimait aussi beaucoup lire, et puis il y avait bien sûr la musique, mais elle s'est effectivement nourrie de toutes ces lectures qui ensuite à un moment donné sont revenues dans son œuvre.
Donc c'est un décloisonnement des différents niveaux de culture qui font qu'on peut, alors c'est la question que je vous pose, la qualifier d'auteur postmoderne.
Ah oui, alors cette catégorie un petit peu compliquée qui est aussi assez contestée, mais c'est vrai que voilà, il y a quelque chose chez Jelinek qu'on retrouve chez pas mal d'auteurs contemporains, qu'ils soient européens ou américains, de se nourrir en fait de différentes sources culturelles qui peuvent appartenir à une culture tout autant canonique ou élitiste qu'à une culture populaire ou une culture de masse. Donc c'est ce qu'elle fait. Effectivement, elle ne délaisse pas pour autant la grande culture dans ses textes, puisque son œuvre est éminemment intertextuelle et elle se nourrit également de beaucoup de références, par exemple à la poésie allemande. Je crois que vous en avez
déjà parlé. On prendra des exemples un peu plus tard justement de cette haute culture dont elle se nourrit aussi. Est-ce que vous avez le sentiment que Jelinek, c'est de la littérature tout de même à destination des masses? Est-ce que c'est une romancière de la culture de masse ou qui écrit pour le grand public?
Alors c'est difficile d'affirmer ça, je pense, parce que c'est quand même une romancière difficile à lire, pas forcément très facilement accessible. Je pense que ces pièces peuvent être lues, peuvent être vues, ces romans aussi peuvent être lus par beaucoup de monde, mais c'est vrai que c'est peut-être bien de savoir ce qu'on est en train de se mettre entre les mains, parce que ce n'est pas évident, et parce qu'en fait c'est une lecture qui ne vise pas à mettre le lecteur en situation de confort.
Donc on ne peut pas parler de littérature populaire?
En ce sens, non. En ce sens, non. C'est simplement qu'elle va réutiliser la littérature populaire, mais ensuite elle va la subvertir. Donc elle va en faire totalement autre chose, et pas forcément pour proposer une œuvre populaire elle-même.
Donc vous avez parlé des inspirations qui viennent des émissions de télévision. Vous n'avez pas cité Daktari, qui est aussi parmi les séries préférées de Elfriede Jelinek. Donc il y a les séries, les bandes dessinées, les romans à l'eau de rose aussi.
Oui, j'ai parlé de magazines féminins, mais effectivement, c'est important. Il y a les romans à l'eau de rose, les romans feuilletons, toute cette littérature sentimentale qui va nourrir ses œuvres, et notamment, je pense à ce roman qui sont Les Amantes. Oui. Dans Les Amantes, les personnages suivent des parcours qui sont des parcours féminins qu'on trouve normalement dans le roman feuilleton.
Et alors, pourquoi reprend-elle, par exemple, ces romans à l'eau de rose? Comment s'en inspire-t-elle?
Disons qu'elle reprend certains schémas narratifs. Donc elle va construire son texte selon ces schémas narratifs, puisqu'elle dit elle-même que finalement la narration ou le récit, c'est pas ce qui l'intéresse le plus. Elle cherche à mettre en place quelque chose d'autre autour. Mais donc elle peut reprendre une trame narrative finalement assez simple, qu'on peut trouver nous, dans le roman feuilleton, dans le roman à l'eau de rose. Et à partir de là, elle va faire vivre à ses personnages des aventures, on va dire, attendues par rapport à ce genre de littérature. Mais les personnages vont vivre des échecs.
Oui. Voilà.
Donc contrairement au happy end,
c'est un contre-pied qui reprend des codes pour les subvertir.
Complètement, puisque finalement les héroïnes ne trouvent pas l'amour, ne s'épanouissent pas dans la vie familiale, dans le mariage, comme ça pouvait être attendu. Donc en ce sens, si on prend un livre de Jelinek en s'attendant à lire un roman à l'eau de rose, évidemment on va être très très déçu, c'est le moins qu'on puisse dire, et complètement déboussolé. Parce que voilà, au niveau du schéma narratif, tout va être bouleversé, mais également au niveau des codes d'écriture, hein, puisque finalement elle va complexifier la langue et elle va proposer tout autre chose pour subvertir de l'intérieur tous les mythes. Et je reviens à cette notion de mythe qui est vraiment essentielle chez Jelinek, tous les mythes que met en place implicitement cette littérature.
Est-ce que vous avez le sentiment que la démarche artistique, c'est-à-dire l'idée que vous venez d'énoncer, est aussi importante finalement que le résultat, c'est-à-dire la littérature en tant que telle, texte final?
Oui, la démarche est essentielle. Il y a vraiment une volonté. Jelinek se disait dans la lignée de Roland Barthes, mythologue. Elle était là pour montrer des mythes, pour les déconstruire et pour quelque part les dénoncer. Voilà. Parce que il y a aussi cette intention chez elle de montrer à ses lecteurs quelque part que ces mythes sont faux et que finalement la réalité est tout autre. Donc elle insiste sur les décalages.
la compagnie des auteurs sur France Culture. Nous parlons d'Elfriede Jelinek avec Vanessa Besan. On a parlé à l'instant des romans à l'eau de rose dont elle s'inspire, des bandes dessinées, des séries télévisées. Il faut dire aussi un mot sur le roman policier. Pareil, culture dite populaire, et c'est peut-être le genre qui l'inspire le plus finalement, Vanessa Besan, celui qu'elle se réapproprie le plus.
Oui, parce que elle est elle-même une grande amatrice de polar. Elle dit qu'elle en a beaucoup lu. C'est un genre qu'elle aime beaucoup. Et à partir de là, on sent qu'elle a envie finalement là aussi de reprendre certaines trames narratives propres au polar, propres au récit policier. Et c'est une tendance dans ses romans, dans certains de ses romans, même si ce n'est pas la trame générale. Ça restera une sorte de sous-genre dans son écriture. Elle ne sera jamais une auteure de polar, mais ce sera intéressant de voir comment elle le développe et comment certains faits narratifs ressortent.
Mmh. Alors comment ça se concrétise, oui.
Par exemple, alors Loust est essentiellement un roman sur la cellule familiale, sur le domaine de l'intime. Malgré tout, la fin de Loust est marquée quand même par le meurtre final du fils par sa mère, hein, donc quelque chose d'hyper violent.
Vous n'avez pas divulgué. Je vous rassure, il y a d'autres choses à trouver dans ce roman.
Oui, je ne cherchais pas à spoiler, comme on dit aujourd'hui, mais voilà, je pense que l'intérêt du roman peut être aussi ailleurs. Mais effectivement, on a ce meurtre final qui renvoie à alors plus qu'aux policiers ici, aux faits divers, puisque en rapport aussi avec le polar ou avec le récit policier, elle dit beaucoup s'inspirer elle-même de la réalité et des médias, et notamment du fait divers.
Et en particulier pour Loust, d'un fait divers qui nous concerne, nous, ouais, Français.
Elle avait parlé de l'affaire Villemain. Alors, on a peu de détails là-dessus. Elle dit juste comme ça que l'affaire Villemain avait pu l'inspirer, effectivement, à ce moment-là. Vous avez un autre roman qui est peut-être plus net sur cette question, qui s'appelle Les Exclus, qui date de 80, si je me souviens bien. Et dans Les Exclus, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui va assassiner son père, sa mère et sa sœur. Elle s'inspire là aussi d'un fait divers qui avait touché l'Allemagne dans les années 60. Mmh. Donc, voilà, elle part de quelque chose qui appartient à la réalité pour ensuite en faire de la littérature.
Même chose pour Avidité, qui est un autre exemple.
Oui, où là aussi on trouve aussi une jeune fille assassinée, retrouvée dans une bâche, bordant lac autrichien. Donc là, il y a aussi l'origine du fait divers, mais il me semble que peut-être on peut penser presque à Twin Peaks quelque part. Je ne sais pas du tout si ça l'a inspiré, hein, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose un peu de lynchien dans l'idée de départ.
On peut même aller un peu plus loin et penser à La Pianiste, où le roman policier, même s'il n'est pas tout à fait présent, n'est peut-être pas oublié non plus. Vous allez nous dire pourquoi, juste après cet extrait donc de La Pianiste.
Le but de leurs économies est d'acheter ensemble un grand appartement. L'appartement en location où elles croupissent encore pour le moment est si vétuste qu'il est tout juste bon à balancer. Auparavant, elles auront tout loisir de choisir ensemble les armoires intégrées et même l'emplacement des cloisons, car le nouveau logement sera construit selon un procédé révolutionnaire. Tout sera strictement exécuté d'après leurs indications. Qui paie, décide. La mère, avec sa minuscule retraite, décide. Erika paie. Dans cet appartement flambant neuf, bâti selon la technique de l'avenir, chacune aura son royaume. Erika ici, la mère là, deux royaumes soigneusement séparés. Mais il y aura quand même un salon commun où l'on pourra se rencontrer si on veut. Et mère et enfant veulent toujours, en vertu de lois naturelles, car toutes deux font la paire. L'espace vital d'Erika se résume à sa petite chambre, où elle peut faire ce qu'elle veut. Personne ne l'en empêche, cette chambre est à elle seule. La mère règne sur le reste de l'appartement, car une maîtresse de maison qui s'occupe de tout passe partout, alors qu'Erika jouit des fruits du travail de sa mère. Dans la maison, Erika n'a jamais eu à torchonner. Les tâches ménagères détruisent les mains des pianistes à force de détergent. Ce qui parfois tracasse la mère, lors de rares instants qu'elle s'accorde pour souffler, c'est de posséder un trésor aussi protéiforme.
La compagnie des auteurs avec cet extrait de La Pianiste lu par Nathalie Tuan Kiet Diong. Alors on n'est pas dans le policier, même si on a un peu l'impression d'un rapport de police hein, à l'écoute de cet extrait, mais il y a des personnages, la mère notamment, qui pourraient faire penser justement à des personnages du genre du polar.
Oui, parce que finalement la mère n'est pas une mère qui laisse sa fille libre, loin de là. Ce que laisse finalement entendre l'extrait que vous venez nous faire écouter entre les lignes, c'est une mère tyrannique qui fait subir à sa fille des interrogatoires assez sévères et assez répétés pour savoir régulièrement où elle a été, qui elle a fréquenté, ce qu'elle a fait, etc., etc. Donc on a quelque chose voilà, de l'ordre de l'interrogatoire policier.
Et Erika, d'ailleurs, la fille aussi se transforme un petit peu en policière, puisqu'elle va suivre comme ça l'élève qui s'appelle Walter Klemmer, son élève pianiste, comme un détective privé
oui,
le ferait.
Oui. Elle va mettre en place quelque part une sorte de filature et devenir une sorte de détective privé, effectivement. Donc c'est des éléments un petit peu secondaires comme ça dans l'intrigue, mais qui légèrement viennent imprégner le récit de cette atmosphère policière.
Donc voilà pour la culture dite populaire, mais la haute culture, toujours entre guillemets, elle est aussi extrêmement présente, et peut-être même finalement davantage. Vanessa Besan.
Alors davantage, je ne sais pas. Peut-être qu'on la voit moins en tout cas, parce qu'effectivement,
elle est plus codée.
Elle demande une grande culture pour être justement lue, vue, décodée. Mais elle est très présente. Jelinek utilise notamment beaucoup la poésie allemande dans ses textes. Mmh. Elle parle beaucoup de Hölderlin, par exemple. On peut trouver aussi des citations de Rilke. Mmh. Il y a cette culture, simplement. Il est très rare qu'elle signale la citation en question. Donc la citation est masquée et il faut que le lecteur puisse la repérer. Je ne pense pas que ce soit très grave si le lecteur ne la repère pas finalement. Mais c'est vrai que quand on peut la voir, c'est intéressant de la mettre en perspective avec aussi toutes ces références beaucoup plus populaires qui appartiennent davantage soit à la culture populaire, soit à la culture de masse et qui viennent créer un effet un petit peu de collage.
Mais
assez
alors,
particulier.
Quand on prend Loust, par exemple, on se rend compte, il faut regarder quand même précisément, que c'est un texte construit à partir d'une soixantaine de poèmes empruntés à Hölderlin et intégrés dans le corps même du roman.
Oui, ça, elle l'a mentionné, elle l'a précisé. Après,
sinon,
c'est assez difficile à repérer. Si vous voulez, j'ai un autre exemple. Que je peux peut-être vous donner, qui est tiré de Avidité. Je lis une citation, donc en français. Le personnage nous parle dans son journal intime. « Quelqu'un aimerait-il encore, sait-on jamais, me voir heureuse ? Il ne serait pas obligé de voir ça, car il ne serait justement pas chez lui si je passais. Qui, si je criais, qui donc entendrait mon cri ? Personne ? Peut-être parce qu'on ne s'est pas vraiment aperçu de ma présence jusqu'à maintenant. » Donc vous avez ici un passage qui est de l'ordre du journal intime à la première personne, qui renvoie davantage justement au roman feuilleton et à cette esthétique-là, avec une héroïne qui nous dit sa solitude. Et au milieu, vous avez cette petite phrase « Qui, si je criais, qui donc entendrait mon cri ?» qui est une citation directement empruntée à Rilke dans les Élégies à Duino. Donc ici, la culture canonique, la culture poétique est présente au cœur même de la culture plus populaire.
Et plus populaire, comme toujours dans ce même roman, le narrateur met l'accent sur le travail des sexes, entre guillemets, sur le traitement aliénant qui en est fait dans les médias, culture populaire.
Oui. Alors, dans Avidité, peut-être plus, je pense, dans les Amantes, on a effectivement une représentation de la femme qui est assez problématique pour Jelinek, puisque ce qui l'ennuie beaucoup, c'est justement que ces romans feuilletons, ces romans à l'eau de rose, véhiculent une image de la femme qui est représentative de valeurs patriarcales, donc qui pose évidemment problème. Une femme toujours douce, sensible, fragile, qui a besoin d'un homme pour la protéger et qui va se réaliser pleinement dans le mariage. Voilà. Et c'est ces mythes-là qu'elle attaque et c'est contre ces idées-là qu'elle va écrire.
Alors, on parle de Loust à l'instant. Je vous propose d'écouter un extrait de ce roman qui est justement fait, on l'a dit, de ces collages de poèmes de Hölderlin.
Au pied de la femme, des vêtements tombent et s'amoncellent tels des dépouilles animales. L'homme, toujours en manteau, se dresse, son membre puissant entre les replis de ses vêtements, pierre sous un jet de lumière. Collants et culottes s'enroulent, humides, autour des mules de la femme. Elle les enlève. Le bonheur semble alanguir, c'en est trop. Le crâne lourd du directeur s'enfouit, toutes dents dehors, dans les poils pubiens de la femme. Son désir est toujours prêt à exiger d'elle quelque chose. Il dégage son chef, presse la tête de la femme contre le col de la bouteille censée la régaler. Les jambes de la femme sont ligotées, tout son corps est palpé. Il lui fend le crâne sur sa verge, disparaît en elle, et lui pince un bon coup le derrière en manière d'encouragement. Lui repousse le front en arrière au point que la nuque maladroite en craque, s'abreuve aux grandes lèvres. Du travail bien fait. Que par ses yeux la vie calmement la contemple. Le fruit finira par mûrir. Voilà le résultat lorsqu'on empile ainsi diverses habitudes, afin de cueillir quelque chose au sommet de l'arbre. Finalement, cela n'a pas le goût escompté. Tout est limité par des interdits, indices de nos désirs. Sur une petite colline non plus, la végétation n'est pas infinie, et nos limites ne s'étendent pas au-delà de ce que nous pouvons saisir. Et nous saisissons peu, nous et nos petits vaisseaux durcis.
Une lecture par Michael Cohen. Qu'en retenez-vous, Vanessa Besan?
Vous avez choisi un passage assez révélateur du texte de Loust qui a été considéré par certains comme un roman pornographique, ce qui est remis en question, parce que justement la notion de pornographie pose problème pour Jelinek notamment, puisqu'elle pense que la pornographie est faite par des hommes.
C'était la tentative d'un porno féminin.
Donc voilà, tentative d'un porno féminin. En tout cas, elle utilise un langage masculin qu'elle cherche à investir pour, encore une fois, le déconstruire de l'intérieur, le subvertir. Et dans ce passage, donc, qui représente ce qu'elle appelle elle-même le travail du sexe, dans le roman, ce qui montre bien qu'on est dans un schéma d'aliénation de la femme, Jelinek nous montre ici cette domination masculine qui s'impose à la femme victime, malgré elle. Et on a, dans ce passage-là, très souvent le point de vue masculin de l'homme sur de son bon droit et sûr finalement de parfaitement satisfaire son épouse qui elle est réduite au silence.
Alors c'est pas un peu démonstratif tout de même, c'est une question que vous vous posez à la fin de votre article, cette manière de faire, quel est votre point de vue, Vanessa Besan?
Démonstratif, qu'est-ce que vous entendez?
C'est-à-dire que la manière dont sont assénées les choses par Jelinek ont peut-être tendance à manquer un tout petit peu de nuances, ou en tous les cas à ne pas aller tout à fait aussi loin que possible dans la nuance.
Alors je pense qu'en fait c'est ce qu'il faut rappeler à mon avis, c'est qu'on n'est pas du tout dans une écriture réaliste. C'est une écriture complètement antinaturaliste. Donc Jelinek ne cherche pas à être finalement vraisemblable. Elle cherche à représenter des situations de manière complètement exagérée, très hyperbolique, parfois caricaturale, pour énoncer, pour mettre en avant d'autres valeurs que celles qui vont être véhiculées par la société, notamment patriarcale. Donc de ce point de vue, bien sûr qu'elle sait que les situations ne sont pas toujours si radicales, simplement elle cherche à mettre mal à l'aise le lecteur, c'est évident, peut-être même à le choquer, pour provoquer une sorte de réaction chez lui.
Et elle se bat au fond seule contre tous.
Oui, alors bon, je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur cette question. Oui, c'est quand même une écrivaine assez subversive qui ne fait pas l'unanimité, c'est le moins qu'on puisse dire. Qui se bat pas mal.
Qui est absolument originale.
Qui est absolument singulière, qui se bat pas mal contre en Autriche contre voilà les institutions et puis il y a eu beaucoup de déclarations effectivement qui remettaient en question son statut littéraire. Elle ne fait pas non plus l'unanimité parmi les féministes. Donc finalement, il y a effectivement une mise à l'écart, enfin pas une mise à l'écart, hein, parce que voilà, elle se sent pas non plus complètement isolée. elle est suffisamment forte pour assumer ça. Mais en tout cas, il y a une singularité totale de cette romancière.
C'est en effet ce que nous allons voir tout de suite en seconde partie de cette émission. Merci beaucoup Vanessa Besan. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférences à l'université de Dijon-Franche-Comté, autrice d'un article intitulé « L'œuvre romanesque d'Elfriede Jelinek, une esthétique de la pop culture » qu'on peut lire en ligne sur le site de la revue Trans. Tout de suite, c'est le moment de retrouver la chronique de Mayalène Berasategui.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Mayalène Berasategui du Nouveau Magazine Littéraire, bonjour à vous.
Bonjour.
Aujourd'hui, vous nous parlez du nouveau livre d'un auteur autrichien, comme c'est bien fait, celui de Robert Ménas, qui publie « La Capitale », un roman choral sur l'Europe.
C'est même un roman sur l'Europe en crise, donc ça se passe à Bruxelles, et ça commence par un meurtre qui a lieu dans un hôtel, donc d'une manière très classique, et on suit une pléthore de personnages qui sont tout autour de cette scène, et une partie de ces personnages travaille dans l'une des institutions les moins glamour du continent, puisque c'est la Commission européenne.
Vous y allez fort.
Et ben, vous avez votre carriériste qui est placardisé à la culture, qui est le département où il n'y a pas de budget, puis qui est censé faire éducation, mais bon, l'éducation passe à la trappe. Vous avez votre fonctionnaire transfuge qui vient d'arriver là et qui se rend compte que, oh là là, là ça marche complètement sur la tête, la Commission européenne. Vous avez votre lobbyiste porcin qui explique que l'avenir, c'est la Chine et qu'il faut qu'on se mette tous ensemble pour pouvoir vendre des cochons à la Chine. Et vous avez le survivant d'Auschwitz à quelques mètres de là qui se demande comment il va survivre dans sa maison de retraite. Et il arrive à faire quelque chose de très bien avec ça.
Oui, alors avec tous ces ingrédients, est-ce qu'on n'est pas plutôt dans le roman à thèse que dans le thriller politique? C'est la question qu'on peut se poser.
Alors, oui et non, certes. Et en même temps, c'est plus un livre très drôle et subtil qu'un thriller politique au sens strict. Ménas, c'est quelqu'un qui a un sens vraiment très subtil de la dérision. C'est un auteur qui est cultivé, mais qui n'est pas du tout élitiste dans ses références, ce qui fait qu'il prend ce bouquin qui est en fait une énorme parodie du début du Da Vinci Code, ce qu'on ne sait que si on a lu le Da Vinci Code. Et donc, dans le Da Vinci Code, il y avait cette espèce d'assassin de l'Opus Dei qui se baladait avec son cilice en permanence pour avoir mal. Et chez Manas, ce garçon-là est devenu un catoréac polonais qui tire avant de réfléchir et qui a un rapport aussi très particulier à la religion et à cette espèce de rapport à la religion, aux organisations secrètes, etc. Vous avez la pesanteur de la bureaucratie qui s'oppose et qui est montrée dans toute son absurdité. Et finalement, ça se rapproche plus, et Ménas en parle lui-même dans le livre, de Robert Musil, qui dans L'Homme sans qualité racontait ses fonctionnaires de l'Empire qui voulaient faire le jubilé de François-Joseph en 1918, sachant qu'en 1918, il n'y a plus ni François-Joseph, ni Empire, ni rien. Et donc eux, ils essayent de faire le jubilé de la Commission européenne, parce qu'il faut que les gens aiment la Commission européenne. Et finalement, la question, c'est est-ce que la Commission européenne est destinée à continuer d'exister ou pas?
Bon alors, est-ce qu'on peut encore croire à l'Europe une fois qu'on a terminé ce roman, Mayalène?
C'est à la fois un constat d'échec de l'Europe, la capitale, et en même temps, c'est un très très beau plaidoyer pour l'Europe politique. D'une part, parce que c'est un très très beau portrait de Bruxelles, c'est-à-dire d'une des villes les plus multiculturelles qu'on ait. Et Ménas, c'est quelqu'un qui est autrichien, qui a très longtemps vécu au Brésil et qui a vécu dans plusieurs capitales européennes. Et il a cette culture européenne, c'est-à-dire que ça n'a rien d'évident pour un auteur de dresser des portraits psychologiques de personnages issus de pays différents et de personnages qui fonctionnent. Et là, ils sont particulièrement crédibles, que ce soit des Français, des Grecs, des Autrichiens, des Polonais. Pour pouvoir faire ça et pour pouvoir faire partager un même espace et faire habiter cet espace par tous ces gens, il faut quand même être très très doué. Et ce bouquin, c'est aussi, à mon avis, le moyen de diffuser une utopie à laquelle Ménas a profondément envie de croire, c'est celle d'une république européenne qui serait supranationale et qui passerait aussi par une union fiscale, avec cette idée qui est pas un scoop, qui est que le retour des nationalismes serait la conséquence directe de la crise de 2008. Et de ce point de vue-là, c'est très très réussi.
Voilà, un livre qui prépare finalement aux élections européennes qui arrivent à grands pas.
Absolument, c'est chez Verdier.
Eh oui, La Capitale de Robert Ménas. Merci Mayalène, on retrouve votre signature dans les pages du Nouveau Magazine Littéraire.
Merci.
Thank you.
compagnie des auteurs sur France Culture. Dernier moment de notre série en 3 épisodes consacrée à Elfriede Jelinek. Nous sommes à présent rejoints par Béatrice González-Wengel, autrice en 2014 de l'essai intitulé « L'œuvre d'Elfriede Jelinek est-elle scandaleuse ?» Dans la revue d'histoire de la Shoah, elle est également enseignante à l'université Aix-Marseille.
Cette jouissance débridée du meurtre, ce maelstrom de tuerie sans équivalent dans notre histoire, cette destruction massive à une échelle industrielle, tout cela m'a toujours fasciné au sens négatif du terme. C'en est devenu un topos, l'un des thèmes de mes romans. C'est vrai aussi de mes pièces de théâtre, de Totten Auberg par exemple, où l'on retrouve cette métaphore de la montagne. À la fin de la pièce, un vieux paysan se met à parler de l'usine chimique Degesch et cite des passages entiers extraits des dossiers de Ligge Farben. Il raconte l'histoire du nouveau brevet du cyclone B, cet insecticide qui a été utilisé sur les hommes, ce gaz dont on a supprimé l'odeur significative pour que ceux qui allaient être gazés ne se rendent compte de rien. Toutes ces choses qui dépassent l'entendement. Cet indicible, tout ce que l'on ne peut pas penser, il faut l'écrire. L'impensable, il faut l'exorciser dans l'écriture, comme par une sorte de conjuration du sort, pour que le cerveau n'explose pas.
Avec Christine Le Cerf. Bonjour Béatrice González-Wengel.
Bonjour.
On a choisi de commencer par cette archive parce que vous-même vous rappelez dès le début de votre texte que le père d'Elfriede Jelinek a pu échapper à la déportation précisément parce qu'il était chimiste, d'où l'importance finalement de cet arrière-fond très culpabilisant. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu davantage sur ce décor-là, qui est plus qu'un décor, enfin qui est un traumatisme dans la vie du père d'Elfriede Jelinek et dans sa vie à elle aussi par capillarité?
Oui, bien sûr, on peut s'attarder sur cet aspect biographique d'Elfriede Jelinek, dont le père, effectivement, a échappé à la déportation parce qu'il était chimiste, ce qui était le cas, ce qui fut le cas aussi de d'autres personnes, et donc qui fut obligé de travailler pour les nazis. Je pense que l'aspect biographique présente un intérêt particulier s'il est thématisé dans l'œuvre. Et ce qui m'a frappé, c'est que Elfriede Jelinek va parler de la Shoah comme de son thème central. Et finalement, elle va, par son acte d'écriture, elle va avoir ce sentiment de culpabilité, ce qu'on peut appeler la culpabilité des rescapés, ou la culpabilité de la seconde génération, et rejoindre en cela Robert Ménas, dont il vient d'être question, d'une certaine manière.
Et quand elle dit, par exemple, « Mais qui suis-je ? La vengeresse ridicule de mon père, accrochée au passé, comme une mouche dans l'ambre jaune. » C'est ça qu'elle veut dire, on imagine, en tout cas.
Oui, et... Pour moi, Elfriede Jelinek est une des rares écrivains à prendre au mot ce qu'a dit Adorno, à savoir écrire un poème après la Shoah est barbare. Pourquoi est-ce barbare? Parce qu'il s'agit, dans cette intertextualité dont on a parlé, de repenser totalement, non pas la culture autrichienne, non pas ne pas se contenter d'une critique de l'Autriche, mais repenser la culture occidentale et pourquoi pas à partir de l'essai Malaise dans la culture de Freud en 1930 et d'Adorno et de Hannah Arendt qui va parler de la fabrication de cadavres. Le progrès nous mène à la fabrication de la mort.
Toujours est-il que, et en particulier à travers cet événement fondateur, la Shoah d'une part et puis la question du père de l'autre, Jelinek est une écrivaine en colère et une écrivaine qui va déclencher des scandales tout au long de sa vie pour cette raison, parce qu'elle est en colère.
Elle n'est pas en colère, enfin, ce n'est pas de cette manière-là que je l'ai lu.
Oh bah vous avez le droit.
Elle n'est, à mes yeux, elle n'est pas en colère. Comme je le disais, elle répond à Adorno, à l'impératif éthique d'Adorno, qui dit un artiste authentique doit se faire l'écho de l'horreur extrême. Et c'est ce cri dont il était question dans l'allusion ou la citation à Rilke, et qu'on va entendre aussi chez des rescapés de la Shoah comme Charlotte Delbo, qui va dire « Le monde entier entend et se tait ». Et ce cri, elle va le hurler avec une constance, une ténacité, une opiniâtreté absolument exemplaire, puisqu'elle va reprendre le souffle de ceux à qui on a coupé la parole, les migrants, les femmes violées, les enfants maltraités, etc., etc. Évidemment, ça fait scandale, parce que quand, comme Beckett l'a dit, le monde pue le cadavre, quand on ouvre les armoires, c'est un scandale. La bourgeoisie, ou la bourgeoisie telle que elle l'a décrite, ne veut pas voir ce scandale, ne veut pas voir la femme violée, ne veut pas voir le cadavre sur son chemin.
Le scandale, c'est peut-être aussi la façon dont on voit et dont on décrit Elfriede Jelinek, c'est-à-dire soit comme une pornographe, soit comme l'Autrichienne qui a eu le prix Nobel pour la dernière fois. C'est comme si ces deux images avaient occulté ce qu'elle souhaitait réellement dire de la société autrichienne.
Oui, alors c'est exactement ce que vous dites. Quand on entend scandale, pornographe et de l'autre côté prix Nobel, on se dit il y a un des deux qui se trompe, effectivement. Hein, donc la vérité.
D'ailleurs, il y a un des jurés, je crois, du prix Nobel qui a quitté le jury parce qu'il trouvait que c'était une œuvre trop pornographique au moment où on lui a remis le prix.
Oui, tout à fait. Il y a eu toute une série de scandales. Le Vatican s'est aussi insurgé contre la diffusion d'un film à Cannes qui s'appelle Sacrilege, d'après une pièce de Jelinek. Il serait très très long hein, d'énumérer tous ces scandales, mais peut-être le scandale en faisant de son œuvre une œuvre taboue, Jelinek accomplit un geste de résistance, et cela est profondément éthique.
Also das Engagement hat man wohl schon anerkannt, aber nicht als eines, das so jetzt.
On a bien sûr reconnu dans mon œuvre la marque d'un engagement, mais pas un engagement que je clamerais haut et fort. J'ai au contraire trouvé une méthode esthétique qui peut se suffire à elle-même littérairement. On m'a toujours considéré comme quelqu'un qui fait de l'agit-propre, comme une traître à la patrie qui pleurniche et qui larmoie. C'est l'une des raisons de mon amertume. Jamais on ne s'est arrêté sur la façon dont je travaille la langue. Et c'est précisément ce travail-là qu'a reconnu l'Académie du Nobel. C'est l'une des choses les plus difficiles à traduire. Et c'est vraisemblablement l'un des aspects de mon œuvre que le public français connaît le moins.
Je stehe dann für Gegnerschaft zu den Nazis oder Neonazis oder zur Rechten.
Je suis celle qui s'oppose aux nazis, aux néonazis, à la droite ou au fascisme clérical, mais de ma démarche esthétique, il n'est jamais question. Il est arrivé un peu la même chose à Thomas Bernhardt. On a toujours pris en compte sa critique de l'Autriche, mais jamais l'incroyable musicalité de ses phrases, alors que sa critique est en réalité très superficielle et très généralisante. Bernhardt n'est pas pour moi un auteur critique, mais un très grand artiste.
Des auteurs sur France Culture. Nous parlons d'Elfriede Jelinek, dont le prix Nobel en 2004 est venu rappeler que son engagement se greffait sur l'œuvre d'une véritable artiste. Elle le redisait en 2005 à notre consoeur Christine Le Cerf. Alors qu'avez-vous retenu de ce qu'on vient d'entendre et de cette archive, Béatrice González-Wangel ?
Bien sûr, l'engagement, bien sûr. Comment elle procède? Alors, comment elle procède également, qu'est-ce que la déconstruction? Hein, la déconstruction ne doit pas être assimilée à la destruction. La déconstruction, c'est déjà le refus de la binarité, de la dualité, homme-femme, maître-esclave, logos-pathos, de la sensibilité et l'intelligibilité. Et en refusant cette binarité, ce dualisme, on va introduire un troisième élément, hein, qui est l'élément créateur. Mmh. C'est-à-dire, la femme n'est pas forcément une victime, hein, le signifiant femme, le signifiant juif n'est plus une victime, mais il est autre chose, quelque chose à créer. Et je pense que c'est dans cet espace-là qu'elle va ouvrir des perspectives extraordinaires que l'on peut peut-être plus ressentir sur la scène.
Alors, quel type de perspective, par exemple?
Quel type de perspective? C'est de penser un nouveau modèle de civilisation où la domination, la puissance par l'argent ou par la force n'est plus possible, hein, puisque on va introduire un troisième élément qui est un élément qui empêche l'adéquation entre l'homme puissant, dominateur, et la femme ou le juif ou le migrant, hein, qui sera la victime. Et donc la relation à l'autre n'est plus une relation de confrontation et de combat, ça sera une relation dans la médiation, dans l'inter-humain.
Mais en même temps, est-ce qu'on peut parler d'une pensée, d'un système politique, par exemple? Pas tellement. Il y a eu un engagement au Parti communiste de Elfriede Jelinek, mais elle s'est quand même assez largement distanciée, par exemple, du Parti communiste.
Mais c'est une artiste, donc elle ne propose rien. Elle essaie de remettre en question le modèle dans lequel nous vivons, hein, par exemple, un élément, c'est ce qu'elle va appeler der Untod, c'est celui qui est pas mort, mais qui est quand même mort et qui réside en dehors du confort de la mort et qui va venir éveiller notre conscience puisqu'il va venger tous les innocents assassinés. Et donc, c'est une manière de faire justice, de rendre justice, et c'est en cela que son geste est profondément éthique.
Là où elle est scandaleuse, Béatrice González-Vangel, Elfriede Jelinek, c'est peut-être aussi parce qu'elle est difficile à comprendre, et que quand on comprend mal une œuvre, quand on comprend mal quelqu'un, quand on n'arrive pas à la classer finalement quelque part, forcément on ressent un malaise vis-à-vis de cette œuvre ou de cet artiste.
Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup étonnée, parce que elle passe beaucoup de temps à expliquer comment elle procède. Elle est très transparente, finalement. Et c'est assez étonnant, justement, qu'elle soit si méconnue. C'est un aspect, effectivement, qui m'a profondément frappée.
Mais peut-être que l'un des éléments qui peut permettre d'expliquer justement ça, c'est que elle est lue dans tellement de perspectives différentes qu'on ne sait plus très bien où elle se situe, à la fois dans les gender studies, mais aussi dans un rapport avec la recherche linguistique, par exemple. Donc, c'est difficile de savoir où elle se trouve.
En fait, il y a des œuvres qui sont, à mes yeux, hein, très très, justement pour essayer de savoir comment elles procèdent. Il y a une œuvre qui s'appelle Wolkenheim, donc qui est au pays des nuées, où elle va. En fait, c'est une, comme ce qu'elle a fait quand elle a répondu à l'attribution de son prix Nobel, elle va s'inscrire dans le refus d'un collectif de l'exclusion. C'est-à-dire, elle va prendre un pronom, qui est le pronom « nous » en allemand, « wir », qui est le « nous » de la sédentarité heideggerienne, et dans la stérilité de l'identité, dans l'immuabilité du même, et elle va le pousser jusqu'à l'extrême pour montrer son absurdité, hein. Et il va y avoir des phrases qui sont très musicales, qui vont être « wir sind wir », »,« nous sommes nous », »,« es gibt uns », »,« il y a nous », et elle va donc opposer à ce nous-là, elle va opposer le nous des nuages, de ceux qui creusent les nuages pour donner aux morts sans sépulture un repos. Donc elle va se mettre dans la tradition de Paul Celan, dans, par exemple, Die Todesfuge, donc la fugue de mort, ou la Engführung, qui veut dire straite en français, où il est question de la cendre, et Elfriede Jelinek va parler de la terre allemande qui s'écoule entre les doigts, et ce qui s'écoule, c'est de la cendre. Donc elle va opposer ces deux nous. Hein, et c'est très clair, c'est très évident. Bien sûr, il faut relire plusieurs fois, mais le voyage vaut le coup.
D'ailleurs, on parlait de l'intertextualité, hein, justement, en première partie. Dans un de ses vers les plus célèbres, Paul Celan dit que la mort est maître d'Allemagne, et Elfriede Jelinek a transposé ce vers en les Autrichiens maîtres des morts, justement, dans l'un de ses essais. On pourrait peut-être redire un petit peu qui est Paul Celan, parce que c'est vrai que c'est une figure importante pour Jelinek. Il est mort tout près de la maison de la radio où on se trouve.
Tout près.
Sur le pont Mirabeau. Enfin, Mirabeau. Il s'est jeté, en l'occurrence, du pont Mirabeau. Pourquoi c'était si important pour elle, la figure de cet écrivain-là?
Paul Celan est un des plus grands, le plus grand poète de langue allemande. Il vient de Tchernowitz, en Bukovine, donc faisait partie du grand empire austro-hongrois, hein, jusqu'en 1918. Ses parents ont péri, et lorsqu'il a essayé de rester en Allemagne et de s'adresser au groupe 47, il a été moqué. Il est ensuite venu à Paris. Il avait un poste de lecteur à Paris, et il a essayé, en fait, pourquoi, j'essaie de répondre à votre question, de recréer une langue allemande qui ne soit pas celle des tortionnaires, une langue qui
précisément pour pouvoir réécrire après la Shoah.
Exactement. Une langue qui est une langue qui, même en allemand, même quand on connaît l'allemand, hein, doit à son propre rythme, à son propre vocabulaire, à sa propre syntaxe. C'est-à-dire que, voilà, il réinvente une syntaxe.
Et vous rappelez, ça c'est tout de même passionnant, et Jelinek d'ailleurs le rappelle elle-même, que Celan a été un jour invité, je crois, par Martin Heidegger à venir le voir, parce que même Heidegger, collaborateur, enfin, qu'il ait été avec les nazis, appréciait beaucoup la poésie de Celan. Et il y a donc eu cette rencontre qui impressionne beaucoup Jelinek.
Oui, parce que qu'est-ce qui se passe? Paul Celan a attendu un mot de la part de Martin Heidegger.
Un mot d'excuse.
Heidegger n'est jamais revenu sur son engagement pour le national-socialisme aux premières heures. Heidegger, lorsque j'ai vécu en Allemagne, était absolument tabou, parce que il n'est pas revenu avant, pendant et après 1945. Il n'est jamais revenu sur cet engagement-là. Maintenant, il est revenu à la mode parce que en Allemagne, en faisant le tour par la France, et il fait partie, certaines de ses œuvres font partie de la mallette des générations identitaires, par exemple. Hein, mais il a cette dimension-là en Allemagne. Et effectivement, Paul Celan avait cet espoir qu'il revienne sur cet engagement.
Oui. Du coup, on peut se demander si l'œuvre de Jelinek, c'est aussi une œuvre d'histoire en tant que telle. On le voit pas tellement comme ça. On le voit comme une critique de la société, comme la déconstruction de mythes. Mais ça peut être aussi interprété, cette œuvre, comme une relecture ou une réinterprétation de l'histoire.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Je pense qu'il y a une relecture de l'histoire puisqu'elle donne la parole aux victimes. Il y a par exemple une œuvre qui date de 2009 qui s'appelle Rechnitz et le sous-titre, c'est Der Würge Engel, l'ange exterminateur. Et elle rapporte un épisode en 1945 où à la frontière austro-hongroise, on a fait venir grand nombre de déportés pour construire ce mur. Et pendant la nuit, on les a massacrés. On n'a jamais retrouvé la fosse commune dans laquelle ils ont été ensevelis. Ce n'est pas un hasard si Jelinek va chercher des morts dont on ne sait même plus où ils sont. Et ce n'est pas un hasard non plus si elle accole ce sous-titre « Würge Engel », l'ange exterminateur, puisque effectivement, hein, on pourrait penser à l'ange de Walter Benjamin, hein, qui l'ange de l'histoire. Bon, chez Jelinek, il faut que ça soit un ange exterminateur, mais qui va venger finalement les victimes. Ce qui fait penser que dans cette noirceur, elle traverse comme Eurydice traverse dans sa pièce de théâtre Ombre, Schatten. Elle traverse les entrailles de la terre dans la noirceur, vers la noirceur. Et en même temps, cet ange ouvre une perspective je dirais presque un espoir messianique, hein, puisque le jour où il n'y aura plus de souffrance, Jelinek arrêtera d'écrire et justice sera faite.
Mais d'ailleurs, les titres de Jelinek sont tout à fait éclairants sur ce que vous venez de dire. Par exemple, « Enfant des morts », ça dit beaucoup de choses, ce titre, de toute l'œuvre d'après la Shoah, d'après les morts, que tente de faire, que fait même Elfriede Jelinek.
Oui, Die Kinder der Toten, alors c'est un pavé, on peut le dire comme ça, et c'est exactement ça. Elle considère que ce livre est un opus magnum, donc sa plus grande œuvre.
C'est votre avis aussi d'ailleurs?
Non, pas forcément. J'aime beaucoup Wolkenheim parce qu'il y a énormément de poésie dans ce texte. Il y a une grande distance justement par rapport à l'histoire. Dans Die Kinder der Toten, c'est peut-être le concept, on ne peut pas parler de concept à propos de Jelinek, mais le terme de Untot qui est vraiment au premier plan, hein, on en parlait déjà tout à l'heure, donc la vengeance des victimes, ou peut-être finalement il n'y a pas de vengeance, tout cela reste dans l'univers de l'écriture, et donc en rien Jelinek est dangereuse, pour répondre à la question du départ, mais c'est vrai que dans Wolkenheim, il y a à mes yeux une poésie extraordinaire.
L'histoire est un billot sur lequel ont été sacrifiés le bonheur des peuples, la sagesse des États et la vertu de l'individu, écrit Jelinek dans Au pays des nuées. Ça aussi, c'est un résumé finalement de tout ce que Jelinek raconte et de tout ce que vous avez voulu saisir dans votre article, Béatrice Vogels-Gonzalez.
Oui, tout à fait. On dirait que cette histoire l'a prise à la gorge et qu'elle est l'objet de cette fureur de dire, hein, qu'elle va relever aussi cette Sprechwut, qu'elle va relever dans la protagoniste de Schiller qui est Maria Stewart, cette fureur de dire.
Et je vous remercie beaucoup, pardonnez-moi d'avoir un peu écorché votre nom, Béatrice Gonzalez Vangel. Pour aller plus loin, je renvoie à votre article « L'œuvre d'Elfriede Jelinek est-elle scandaleuse ?» On peut la trouver, je crois qu'elle est disponible en ligne, dans la revue d'Histoire de la Shoah. C'est un article qui date de 2014. C'est c'était la compagnie des auteurs, troisième et dernier épisode de notre série consacrée à Elfried Jelinek. Une émission de Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Stéphanie Vélin et Bruno Gagnère-Fontanille. Demain, tout autre chose, puisque nous chercherons à savoir dans quelle mesure le roman de Michel Houellebecq, Sérotonine, peut être ou non considéré comme un livre important à l'échelle de l'histoire littéraire. Suspense et réponse demain, tentative de réponse en tous les cas. Mais tout de suite, c'est de poésie dont il est question sur France Culture, grâce, comme chaque jour, aux lectures de textes de Jacques Bonnaffé.
Bonjour, bonjour la compagnie. Méditerranée romance de Yann Miralles. Méditerranée romance, c'est une image et on y plonge. Non, non, d'ailleurs, on y bouge. On est en mouvement, c'est un poème, c'est un mouvement des vagues et palimpseste. Une page nouvelle s'écrit sur le sable, suite, la barque nombreuse, les silhouettes à sauver de ceux dont on ne parle qu'au pluriel et de distance. Voici qu'il s'avance vers nous, le bord, le bas de l'image, comme un cri lent et muet. Troisième jour, Méditerranée romance. La Méditerranée n'est pas que bouche multiple de poissons balbutiant dessous. Elle est aussi lèvre immense, ouverte, vue du dessus. Mais lèvre souvent gercée avec crevasses aux commissures. Alors je choisis dans le désordre. Parfois je reprends. La mer est là, comme une mare au milieu pour être traversée, nous. Traversons et rentrons dans le précis mois d'août où, comme les aimés avant nous, traversèrent et allèrent en plusieurs sens sur notre mer. Méditerranée, romance. Ah oui, je voulais redire ce petit bout. C'est l'épopée triste des temps actuels, comme trace sur la surface de l'eau de nos années ou romances au sens ancien. Et reprise, c'est la romance de ceux qui ne sont qu'au pluriel, de distance, ceux dont on ne parle qu'à la place, jusqu'à ce jour où la journaliste, par l'embarquement dans la cale, en plein cœur du bateau, passe à celui qui parle, par leurs yeux, par la bouche de l'autre, de je dans la cale, de qui creuse de ses mains les vagues et l'horizon dans la nuit pleine de peur et d'espérance. Une parole cherche de lèvre à lèvre, de rive à rive, à passer jusqu'à parler encore et continuer à vivre. Vers nous viennent et s'en vont les vagues, les voix, meurent parfois. Jusqu'ici, le doux clapotis de la mer, rumeur anonyme. Qu'entendre et parler encore à la personne la première. Ici, comme en ce cahier ancien, t'en souviens-tu, se trouve écrite ta présence qui de deux rives fait assonance et d'une main tient rassemblés les nombreux sens de la mer et du mot romance, l'amour épopée, cela qui continue. Rime les bouches quand elles touchent la lèvre de l'une, les rives de l'autre, et vont ouvrir le mur solide de la mer.
Jacques Bonnaffé, merci pour ces textes de Yann Miralles.